Chapitre 13. Note prise dans le journal tenu par Clément pendant son voyage à Winchester. Si j'avais été un homme heureux, n'ayant pas une grande inquiétude dans l'esprit, je crois que j'aurais pu m'amuser beaucoup dans la société de M. Carter, l'agent de police. Cet homme avait un amour enthousiaste pour sa profession, et s'il peut y avoir quelque chose de dégradant dans cet emploi, cela ne l'affectait en aucune façon. Il se peut que la connaissance qu'avait M. Carter de son utilité fût suffisante pour mettre son amour-propre à l'abri. Si, en remplissant son devoir, il avait à faire des choses désagréables, s'il avait à affecter des relations d'amitié avec l'homme qui poussait à la potence, s'il avait pour mission de découvrir la trame d'une action criminelle, grâce à la confiance et à l'insouciance qui s'échappent d'un verre ami, si de temps à autre il avait à se soumettre à des actes qui, pour d'autres hommes, seraient une flétrissure, il savait qu'il faisait son devoir, et que la société se détraquerait s'il n'existait pas des hommes comme lui, perspicaces, braves, résolus, et décidés à tout pour accomplir une tâche désagréable. Des hommes qui se dévouent à servir de chiens de berger aux troupeaux de l'humanité et à être la terreur des animaux sauvages et des pillards. M. Carter me raconta un grand nombre de ses expéditions pendant notre voyage à Winchester. J'écoutais ce qu'il me disait, mais je ne m'y intéressais pas. Je ne pouvais me rappeler qu'une chose, ne penser qu'à une chose, au mystère qui me sépare de la femme que j'aime. Plus j'y songe, plus je me confirme dans la conviction que je n'ai pas été la dupe d'une femme sans cœur ou cupide. Margaret a été influencée. Elle a porté la peine de son obstination à pénétrer jusqu'à Dunbar. D'une façon inexplicable, au moyen de quelque rouerie ou de quelque trahison, cet homme a déterminé la fille de sa victime à devenir le champion de son innocence au lieu de s'en faire l'accusatrice. Il doit exister une complication horrible, une fatalité cruelle, qui contraint Margaret à mentir à son cœur et à sacrifier son bonheur et le mien. Le jour de son départ de Shorncliffe, elle souffrait aussi cruellement que je pouvais souffrir. Je sais maintenant qu'il en était ainsi. Mais j'étais aveuglé alors par l'orgueil et la colère. Je n'avais conscience de rien que de mes propres douleurs. Trois fois, durant le courant de mon voyage de Londres à Winchester, j'ai tiré de mon portefeuille l'étrange lettre de Margaret, et j'ai lu ses lignes familières avec la pensée de me confier entièrement à mon compagnon et de remettre cette lettre entre ses mains. Mais pour cela, il faudrait lui raconter l'histoire de mon amour et de mon désenchantement, et je ne puis me résoudre à le faire. Il se peut que cet homme découvre des idées cachées dans les paroles de Margaret, des idées qui sont tout à fait obscures pour moi. Je crois que l'art de l'agent de police renferme en soi la puissance de deviner des pensées qui se cachent sous des expressions qui sont assez simples en elles-mêmes. Nous entrâmes dans Winchester vers midi, et M. Carter proposa de nous rendre directement à l'hôtel George, où Dunbar était resté après le meurtre dans le petit bois. Nous ne pouvons mieux faire que de nous fixer à l'hôtel où les gens soupçonnés se sont arrêtés au moment de l'événement pour lequel nous faisons des recherches, me dit M. Carter, comme nous nous éloignons de la station après avoir remis notre mince bagage aux soins d'un porteur. Nous allons recueillir tous les genres de renseignements d'une façon engageante si nous restons dans la maison, de ces niaiseries qui ne paraissent rien du tout jusqu'à ce qu'elles soient réunies et que vous remontiez au commencement et que vous les lisiez couramment de la bonne façon. Maintenant, monsieur Austin, je dois vous dire quelques mots avant de commencer l'affaire, car vous êtes un amateur dans ce genre d'exercice. Et il se peut très bien faire qu'avec les meilleures intentions, vous alliez de l'avant et gâtiez mon jeu. J'ai entrepris cette affaire, et je désire consciencieusement la mener à bien. Dans ces circonstances, je suis obligé d'être sincère. Consentez-vous à n'agir que d'après mes ordres ? Je dis à M. Carter que je consentais parfaitement à obéir à ses ordres en toutes choses, aussi longtemps que ce que je ferais aiderait au but de notre voyage. C'est poli et charmant, répondit-il. Donc, à l'œuvre. D'abord et en premier, vous et moi, nous sommes deux fils de famille qui avons tant de loisirs que nous ne savons qu'en faire. Et assez d'argent pour en être embarrassés. On nous a parlé de la pêche dans les environs de Winchester, et nous y sommes venus pour y passer une semaine d'oisiveté ou quelque chose dans ce genre-là. Nous irons voir les environs, et s'ils nous plaisent, eh bien, nous passerons la saison d'été à l'hôtel Georges, que nous trouvons très confortable en général, et dont nous pouvons affirmer que les sols frites ou la soupe à la tortue sont meilleurs que dans tous les hôtels des Trois Royaumes. Ceci est le numéro 1, et cela nous met sur le pied de bons clients qui, probablement, deviendront meilleurs encore. Ceci rendra poli le propriétaire et les garçons, et il n'est rien qu'ils sachent qu'ils ne consentent à nous dire de bonne volonté. Voilà pour le premier point. Maintenant, le point numéro 2 est que nous ne savons absolument rien de l'homme qui a été assassiné. Nous connaissons M. Dunbar parce que c'est un homme connu, un grand personnage et autre chose de cette nature. Nous avons lu quelques rapports relatifs à ce meurtre dans les journaux, mais nous n'y avons pas porté grande attention. Il se peut alors que cela délie la langue du maître et des garçons, et nous saurons toute l'histoire de l'assassinat, avec tout ce qui a été dit et fait, pensé et soupçonné, toutes les suppositions qui ont été mises en avant, toutes les rumeurs qui ont couru. Quand le maître et les garçons nous en auront raconté une bonne partie, nous commencerons à nous animer et à nous intéresser beaucoup à cette affaire. Et alors, petit à petit, je poserai mes questions, et je continuerai à les poser jusqu'à ce que chaque bout de renseignement sur ce sujet soit enlevé aussi proprement que la viande d'un os par un chien affamé. J'espère à présent qu'il vous sera agréable de m'aider dans cette opération, monsieur Austin. Et si vous le vouliez, je crois que je trouverai un plan dans lequel vous pourriez vous rendre très utile. Je dis à mon compagnon que j'étais très désireux de le servir en tout ce qui serait en mon pouvoir, si insignifiant que pût être l'appui qu'il me demanderait. Alors, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Je ne vais pas aborder le sujet sur lequel je veux les faire causer tout d'abord, parce qu'ainsi je trahirai l'intérêt que je prends à cette affaire et je gâterai mon jeu. Non pas que personne essayerait de me contrecarrer, vous comprenez, si l'on savait que je suis l'agent de police Henry Carter de Scotland Yard. Ils seraient tous sur le qui-vive immédiatement après qu'ils auraient découvert qui je suis, et ensuite ils tenteraient tous de me servir. Voilà ce qu'ils feraient. Tom me dirait ceci, Dick voudrait m'expliquer cela, et Harry se souviendrait de telle chose. Et le résultat serait de troubler la tête la plus lucide qui ait jamais étudié un problème d'instruction criminelle. Mon jeu est de rester dans l'ombre et de me procurer tous les renseignements au moyen des autres. Je ne me livrerai à aucune importante question, mais j'attendrai tranquillement que le meurtre de Joseph Wilmot surgisse dans la conversation. Et je ne crois pas que j'aurai longtemps à attendre. Votre besogne est assez facile. Vous aurez des lettres à écrire, vous entendez, et aussitôt que vous m'entendrez, soit avec le patron, soit avec les garçons, comme cela peut être, causer du meurtre, vous vous mettrez à votre pupitre et vous commencerez à écrire. Vous voulez que je prenne des notes sur la conversation, lui dis-je. Vous l'avez deviné. Vous ne paraîtrez prendre aucun intérêt à la conversation sur Henry Dunbar et l'assassinat de son domestique. Vous semblerez plongé dans vos lettres, qui doivent être prêtes avant l'heure du courrier. Mais vous vous arrangerez pour recueillir le moindre mot dit par les gens de l'hôtel Georges ayant trait à l'affaire que nous poursuivons. Ne prenez pas garde à mes questions, ne les écrivez pas, car elles seront inutiles. Écrivez les réponses aussi littéralement que possible. Elles trouveront leur place, soyez sans crainte. Ce sera mon affaire de les mettre au net et de les réunir ensuite. Vous devez être muet et prendre des notes, monsieur Austin. C'est tout ce que vous avez à faire. Je vous promets de faire de mon mieux. Nous approchions de l'hôtel Georges et je ne pouvais m'empêcher de songer à cette belle journée d'été par laquelle Dunbar et sa victime étaient venus à Winchester comme première étape d'un voyage que l'un d'eux ne devait jamais finir. La conviction de la culpabilité du banquier était devenue si forte en moi depuis la scène de St. Gundolph Lane que je pensais alors à cet homme comme s'il avait déjà été jugé et reconnu coupable. Je fus surpris quand l'agent me parla de son crime comme d'une chose faisant question et encore à prouver. Dans mon esprit, Dunbar se reconnaissait par sa conduite comme meurtrier de son ancien domestique, Joseph Wilmot. Le temps était froid, il faisait du vent, et il y avait peu de promeneurs dans la grande rue montueuse de Winchester. Nous fûmes reçus avec beaucoup d'égards à l'hôtel Georges, et conduits dans un petit salon très confortable du premier étage, dont les fenêtres donnaient sur la rue. Deux chambres à coucher à proximité du salon nous furent assignées. Je commandai le dîner pour 6 heures, m'étant assuré que cette heure convenait à M. Carter, qui retirait doucement toutes les couvertures de voyage qui l'enveloppaient et regardait attentivement chaque objet qui était dans la chambre, comme s'il pensait qu'il pouvait y avoir quelques fragments de renseignements à recueillir d'une persienne ou d'un seau à charbon, ou quelques mystères cachés dans les tiroirs de la commode. Je crois que l'habitude de l'observation était si puissante chez cet homme qu'il observait involontairement les choses les plus insignifiantes. C'était un jour triste et désagréable, et je fus bien aise d'avancer ma chaise près du feu et de m'y établir commodément pendant que le garçon alla chercher une bouteille de soda et pour 6 pence d'eau-de-vie pour mon compagnon, qui se promenait dans la chambre les mains dans les poches et ses sourcils gris froncés. La récompense offerte par le gouvernement pour l'arrestation de l'assassin de Joseph Wilmot était la mise à prix ordinaire de la tête d'un meurtrier. Le gouvernement avait offert de payer 100 livres à la personne ou aux personnes qui pourraient donner quelques renseignements qui permettraient de s'emparer du coupable ou des coupables. J'avais promis à M. Carter de lui donner, en outre, 100 livres de ma poche s'il réussissait à résoudre le mystère de la mort de Joseph Wilmot. La récompense était par conséquent de 200 livres, et c'était un enjeu assez joli et assez élevé, me dit M. Carter, comparé au salaire ordinaire de sa profession. Je lui avais donné l'engagement écrit de lui payer 100 livres le jour même de l'arrestation du meurtrier. J'étais fort à même de remplir cet engagement sans crainte d'être obligé de réclamer un service de ma mère, car j'avais économisé environ 1000 livres pendant les 12 années que j'étais resté dans la maison Dunbar et Balderby. Je vis à l'aspect de M. Carter qu'il réfléchissait et très sérieusement. Il but sa bouteille de soda et son eau-de-vie, et il ne dit pas un mot au garçon qui lui apporta ce breuvage populaire. Mais quand cet homme fut sorti, il vint se planter devant moi sur le tapis du foyer. « Je vais vous parler très sérieusement, » me dit-il. Je l'assurai que j'étais prêt à entendre tout ce qu'il pourrait avoir à me dire. « Quand vous vous servez d'un agent du service de sûreté, n'employez jamais un homme en qui vous ne pourriez avoir entière confiance, » commença-t-il. « Si vous n'avez pas foi en lui, n'ayez rien à démêler avec lui, car on ne doit pas lui confier les plus chers secrets de la famille, qui furent toujours regardés comme sacrés par un honnête homme, parce que c'est un misérable, et que vous feriez mieux de marcher sans son aide. Mais quand vous avez mis la main sur un homme qui vous a été recommandé par des gens qui le connaissent bien, fiez-vous à lui et sans crainte. » Ne lui racontez pas une partie de votre histoire en lui cachant l'autre, parce que, voyez-vous, le travail fait dans le demi-jour ne vaut guère mieux que celui fait dans l'obscurité. Maintenant, pourquoi vous dis-je ceci, monsieur Austin? Vous le savez aussi bien que moi. Je le dis parce que je sais que vous n'avez pas confiance en moi. Je vous ai dit tout ce qu'il était absolument nécessaire que vous sachiez, lui répondis-je. Pas le moins du monde, monsieur. Il est absolument nécessaire pour moi de tout savoir, si vous désirez que je réussisse dans l'œuvre que j'ai entreprise. Vous craignez de me donner votre entière confiance sans réserve. Dieu vous tienne en paix, monsieur. Dans ma profession, un homme apprend à faire usage de ses yeux. Et quand une fois il a appris la manière de s'en servir, il ne lui est plus facile de les fermer. Je sais aussi bien que vous me cachez quelque chose. bien que vous soyez à moitié résolu de vous fier à moi. Pendant que nous étions assis l'un en face de l'autre dans le wagon du chemin de fer, vous avez tiré trois fois une lettre de votre poche. Et de temps en temps, quand vous lisiez, vous me regardiez avec hésitation et votre regard semblait complètement indécis. Vous pensiez que pendant tout le temps, je regardais par la fenêtre, très intéressé par la vue des champs de blé que nous traversions alors. Mais, monsieur Austin, si je n'étais pas capable de regarder par la fenêtre et de vous observer en même temps, je ne voudrais pas un grain de sel ni pour vous ni pour les autres. J'ai vu assez clairement que vous aviez envie de me montrer cette lettre. Et il n'était pas bien difficile de deviner que cette lettre avait quelque rapport avec l'affaire qui nous a amenés à Winchester. Monsieur Carter s'arrêta et s'étaya contre l'angle de la cheminée. Je n'étais pas surpris qu'il eût deviné mes pensées dans le chemin de fer. Je réfléchis sérieusement sur ce sujet. Il avait raison en somme, sans aucun doute. Mais comment pouvais-je raconter à un agent de police mes plus chers secrets? La triste histoire de mon unique amour. « Ayez confiance en moi, monsieur Austin, » me dit mon compagnon. « Si vous avez besoin que je vous serve, ayez entière confiance. Cette même chose que vous me cachez peut être la clé que j'aurai le plus besoin de tenir. » « Je ne crois pas cela, » lui dis-je. Cependant, j'ai toute raison de vous croire un homme consciencieux et honnête, et je me fierai à vous. Je crois que vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse autant à cette affaire. Eh bien, pour dire la vérité vraie, monsieur, il paraît assez extraordinaire de voir un homme indépendant comme vous prendre tant de peine pour découvrir le vrai et le faux d'un meurtre commis il y a près d'un an. À moins que vous ne soyez un parent de la victime. Et même si cela était, vous seriez bien différent de l'espèce des parents ordinaires, car ordinairement, ils prennent cela d'une façon plus paisible que toute autre personne, répondit M. Carter. Je dis à l'agent que jamais de ma vie je n'avais vu l'homme assassiné, et que je n'avais jamais entendu prononcer son nom avant le meurtre. « Alors, monsieur, je puis vous dire que je ne comprends pas le motif qui vous fait agir, » dit M. Carter. « Eh bien, monsieur Carter, je crois que vous êtes un brave homme, et je veux me fier à vous, lui dis-je. Mais pour cela, il faut que je vous raconte une longue histoire, et ce qui est pis encore, une histoire d'amour. » Je sentis que je rougissais un peu en disant ceci, et je fus tout honteux de cette fausse pudeur qui amenait cet incarnat sur mes joues. Monsieur Carter s'aperçut de mon embarras, et fut assez aimable pour m'en excuser. « Ne soyez pas effrayé de me raconter cette histoire parce qu'elle est sentimentale, » dit-il. « Car, croyez-en ma parole, j'en ai joliment entendu des histoires d'amour. Il est bien peu d'affaires qui s'offrent à nous qui, si nous les sondions, ne nous feraient pas découvrir un cotillon au fond. Vous vous rappelez l'Oriental qui demandait toujours « Qui est-elle ?» quand il entendait parler d'un combat ou d'un feu ou d'un taureau furieux qu'on avait laissé échapper, ou de toute autre légère calamité de ce genre, parce que, d'après ses aperçus, il y avait toujours une femme au fond de toutes les mauvaises choses qui arrivaient sur cette terre. Eh bien, monsieur, si ce potentat oriental avait vécu de nos jours et avait été élevé dans la carrière de la police, que je sois pendu s'il aurait eu besoin de changer d'opinion. Ne soyez donc pas honteux de me faire le récit d'une histoire d'amour, monsieur. J'ai été amoureux moi-même autrefois, bien que j'aie l'air d'un vieux copeau sec, et j'ai épousé la femme que j'aimais. C'était une petite paysanne, aussi fraîche et aussi innocente que les marguerites de l'enclos de son père. Et jusqu'à ce soir, elle ne sait pas encore de quelle nature est mon travail. Elle croit que je suis quelque chose dans la cité, cher petit cœur. Cette teinte de sentiment dans la conversation de M. Carter était tout à fait sans affaîtrie, et je me sentais de plus en plus enclin à me confier à lui après cette petite révélation sur sa vie domestique. Je lui racontai très brièvement l'histoire de ma connaissance avec Margaret, ne lui donnant que les détails indispensables. Je lui racontai les différents efforts de la jeune fille pour voir Dunbar et la persistance du banquier à éviter sa présence. Je lui dis enfin notre voyage à Shorncliffe et l'étrange conduite de Margaret après son entrevue avec l'homme qu'elle avait si vivement désiré de voir. Le récit de ceci, bien que je l'eusse fait rapidement, nous prit près d'une heure. Pendant tout ce temps, M. Carter était resté assis en face de moi, écoutant avidement, me regardant d'un œil fixe et invariable, et doigtant quelques passages musicaux sur ses genoux, avec des mouvements prudents de ses gros doigts et de ses pouces. Mais je pus voir qu'il n'écoutait pas seulement, mais qu'il réfléchissait et raisonnait sur ce que je lui racontais. Quand j'eus fini mon histoire, il demeura silencieux pendant quelques minutes, mais il me regardait encore avec le même regard implacable et inexorable, et tapait encore ses doigts sur ses genoux, aussi lentement et de propos aussi délibérés, que s'il avait composé une fugue à la manière de Mendelssohn. Et avant l'époque de cette entrevue à Maudesley Abbey, Mademoiselle Wilmot était frappée de l'idée que Dunbar était le meurtrier de son père, dit-il à la fin, très positivement. Et après cette entrevue, la jeune femme a changé subitement d'opinion et voulait au contraire que le banquier fût innocent, demanda M. Carter. Oui, quand Margaret revint de Maudesley Abbey, elle me fit part de sa conviction de l'innocence de Dunbar. Et elle refusa de remplir ses engagements avec vous ? Oui, monsieur. L'agent cessa de tambouriner des fugues sur ses genoux et commença à se gratter la tête, passant doucement sa main de côté et d'autre dans ses cheveux gris de fer et me regardant toujours. Je vis alors que ce regard inexorable n'était que l'expression fixe de la figure de M. Carter quand il réfléchissait profondément, et que la dureté de son regard avait très peu de rapport avec l'objet qu'il fixait. J'examinai son visage pendant qu'il réfléchissait, espérant voir quelque éclair subit et intellectuel illuminer sa physionomie. Mais je l'examinai vainement. Je vis qu'il se trouvait en défaut. Je vis que la conduite de Margaret était tout aussi inexplicable pour lui qu'elle l'avait été pour moi. « Monsieur Dunbar est un homme très riche, dit-il à la fin, et l'argent fait généralement beaucoup dans des cas pareils. Il y a eu une célébrité politique, Sir Robert quelqu'un, mais pas Sir Robert Peel, qui disait « tout homme a son prix ». Maintenant, pensez-vous qu'il soit possible que Mademoiselle Wilmot se soit laissée corrompre pour garder le silence ? Puis-je penser qu'elle aurait accepté de l'argent de l'homme qu'elle soupçonnait être l'assassin de son père, de l'homme qu'elle savait avoir été l'ennemi de son père ? Non, répondis-je résolument, je suis sûr qu'elle est incapable d'une telle bassesse. L'idée qu'elle a été achetée est venue à mon esprit dans la première amertume de ma colère. Mais même alors, je la repoussais comme incroyable. À présent que je puis penser froidement à ce sujet, je sais qu'une pareille alternative est impossible. Si Margaret a été influencée par Dunbar, c'est par la crainte seule qu'il aura agi. Dieu sait de quoi il aura menacé la malheureuse enfant. L'homme qui a pu attirer son vieux domestique dans un bois solitaire et l'y assassiner, l'homme qui jamais n'a senti une étincelle de pitié pour l'instrument et le complice du crime de sa jeunesse, pour l'humble ami qui sacrifiait un nom sans tache dans le but de servir son maître, a dû éprouver peu de remords à torturer une jeune fille sans défense qui osait se présenter devant lui comme une accusatrice. Mais vous dites que Mademoiselle Wilmot était résolue et avait l'esprit très motivé. Est-il probable que cette personne ait été de nature à se laisser dominer par la crainte que lui aurait inspirée M. Dunbar ? Quelle menace aurait-il pu employer pour l'épouvanter ? Je secouai la tête d'une façon désespérée. « J'en suis aussi ignorant que vous, lui dis-je. Mais j'ai des raisons puissantes pour croire que Margaret était sous l'influence d'une grande frayeur quand elle revint de Maudesley Abbey. » Quelle raison ? Demanda M. Carter. Son ton démontrait suffisamment qu'elle avait été effrayée. Son visage était blanc comme un linge quand je la rencontrai. Elle tremblait et s'éloigna de moi comme si ma présence était horrible pour elle. Pourriez-vous essayer de répéter ce qu'elle a dit ce soir-là et le matin suivant ? Ce n'était pas une chose bien agréable pour moi que de rouvrir mes blessures au profit de M. Carter, l'agent de police. Mais il eût été absurde de contrarier cet homme quand il travaillait dans le but de m'être utile. J'aimais trop Margaret pour oublier tout ce qu'elle m'avait jamais dit, même dans nos moments les plus heureux et les plus calmes. Et j'avais une raison particulière pour me rappeler cette cruelle entrevue d'adieu et la scène étrange qui avait eu lieu dans le couloir du Grand Cerf le soir de son retour de Maudesley Abbey. Je parcourus de nouveau ce terrain, par conséquent, pour l'édification de M. Carter, et je lui redis mot à mot tout ce que Margaret m'avait dit. Quand j'eus fini, il s'enfonça encore plus dans sa rêverie, pendant que je restais assis, écoutant le tic-tac d'un coucou placé dans le corridor en dehors de notre salon, et le bruit d'un pas quelconque sur le trottoir au bas de nos fenêtres. Il n'y a qu'une chose qui me frappe spécialement dans tout ce que vous m'avez dit, reprit l'agent bientôt après, quand je me fus fatigué de l'examiner, et quand j'eus donné loisir à mes pensées d'errer et de rétrograder vers cet heureux temps où Margaret et moi nous nous aimions en ayant foi l'un en l'autre. Il n'y a qu'une chose qui me frappe dans tout ce que vous a dit la jeune fille, et ce sont ces mots. « Il n'y a que souillure à recueillir à mon contact, vous a dit Mademoiselle Wilmot. Je suis indigne d'être lié au sort d'un honnête homme, vous a dit encore Mademoiselle Wilmot. Eh bien, c'est comme si elle avait été achetée d'une manière ou d'une autre par M. Dunbar. Je l'ai retournée dans mon esprit de toutes les façons, et quelle qu'en soit l'analyse, c'est toujours ce qui en résulte. La jeune femme a été achetée. Et elle a eu honte d'elle-même de s'être laissée corrompre.